Nous lisons une parole de Dieu avant la prière tirée du prophète Ésaïe, chapitre 51, peut-être les premiers versets. Ici, Dieu parle, verset 1, Ésaïe 51. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, vous qui cherchez le Seigneur. Regardez le rocher dans lequel vous avez été taillé et le creux du puits d'où vous avez été tiré. Verset 2. Regardez Abraham, votre père, et Sarah, qui vous a donné naissance dans la douleur, car il n'était qu'un seul homme quand je l'ai appelé, mais je l'ai béni et rendu nombreux. Verset 3. Car le Seigneur a de la consolation pour Sion, de la consolation pour tous ses lieux de ruines. Il fera de son désert un paradis et de sa terre aride un jardin de Dieu. Il y aura en elle des cris de joie et d'allégresse, des chants d'action de grâce et des instruments de musique. Écoute-moi, ô mon peuple, et prête-moi l'oreille, ô mon assemblée, car l'instruction sortira de moi et j'établirai mon droit pour éclairer les peuples. Verset 5. Ma justice est proche. Mon salut est en train de se faire et mes bras jugeront les peuples. Et mes bras jugeront les peuples en moi. Va l'espoir des pays de la mer et en mon bras leur attente. Verset 6. Levez vos yeux vers le ciel et regardez vers la terre en bas, car les cieux se dissiperont comme une fumée et la terre tombera en lambeaux comme un vêtement et ses habitants mourront comme des moucherons. Mais mon salut sera éternel et ma justice ne sera pas détruite. Verset 6. Écoutez-moi, vous qui connaissez et aimez la justice. Vous, le peuple, dans le cœur duquel ma loi habite, ne craignez pas les moqueries des hommes et ne vous effrayez pas de leurs insultes. Verset 8, car la teigne les rongera comme un vêtement et le cafard les dévorera comme de la laine. Mais ma justice subsistera éternellement et mon salut de descendance en descendance. Remercié soit notre Dieu pour ses précieuses paroles de promesse. Nous savons et nous croyons. Chaque parole que notre Dieu a prononcée s'accomplira. Et nous voyons qu'une grande partie de ce qu'il a dit s'est déjà réalisée. D'autres choses sont encore à venir. Mais nous sommes pleins de confiance et de foi dans le fait que tout s'accomplira. Et c'est pourquoi nous sommes si heureux et si reconnaissants de pouvoir à nouveau regarder à lui ce soir et l'écouter, car nous savons que c'est de lui que vient l'enseignement. Il instruit son peuple. Pouvons-nous le dire ou non? Il le fait jusqu'à nos jours. Et nous en sommes heureux et reconnaissants. Ce soir encore, il nous offrira ce qu'il a prévu pour nous. Et pour cela, nous voulons le remercier dès maintenant. Levons-nous pour cela. Père Céleste, nous te remercions ensemble ce soir pour ta sainte et précieuse parole. Tu nous as appelés, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, vous qui cherchez le Seigneur, Dieu fidèle, que devant qui devons-nous attendre? Vers qui devons-nous tourner nos regards si ce n'est vers toi seul, Seigneur? Qui devons-nous écouter si ce n'est ta parole, Seigneur, que tu nous as préparée pour ce temps, pour cette heure, pour ces moments, Seigneur? Nous sommes si heureux et si reconnaissants, Seigneur, d'avoir pu recevoir ta parole, non par mérite, mais par grâce. Tu nous l'as accordée. Nous t'en remercions. Nous t'adorons, Seigneur, et nous te prions, ô Dieu fidèle, d'être présent ce soir encore, ô Seigneur. C'est notre désir profond, ô Seigneur. C'est notre prière, Seigneur. C'est notre demande, Seigneur. Tu sais ce que nous sommes venus faire, Seigneur. Ce n'est pas par habitude, Seigneur. Non, Dieu fidèle, accorde-nous la grâce, Seigneur, de recevoir ce que tu vas nous dire par ta sainte et précieuse parole. Nous t'adorons et glorifions ton merveilleux et glorieux nom de Jésus. Reçois la gloire, reçois la louange de notre cœur et de notre bouche à tous. Telle est ma prière. Et je te prie, Seigneur, d'être aussi avec mon frère. Seigneur, accorde-lui ta grâce et ta puissance ce soir. Seigneur, fais que ta parole nous parle avec puissance, même si elle est aussi tranchante, Seigneur, qu'une épée à deux tranchants, mais qu'elle pénètre et qu'elle sépare tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Nous t'adorons et nous glorifions ton nom. Alléluia. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Nous sommes reconnaissants de pouvoir être sous l'écoute de sa parole, de parler avec Dieu et de savoir qu'il nous parle et que nous ne faisons pas qu'écouter sa parole, mais que nous la croyons, que nous la croyons de tout notre cœur. Frère Branham a souligné à maintes reprises le passage biblique de Jean 5, verset 24, où il est écrit, Jean 5, verset 24, il est écrit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et Frère Branham a dit, du temps de Jésus, beaucoup ont entendu sa parole avec ses oreilles. Mais cela ne veut pas dire cela. Mais vraiment, ici, il s'agit que vraiment dans leur cœur, pas seulement entendre ici de manière acoustique, mais entendre, recevoir et croire de tout son cœur. J'ai des salutations à donner et un frère a dit au téléphone ce qui a déjà été souligné. Ils seront tous enseignés par Dieu. Il a appelé au téléphone et a dit, frère Franck, j'ai fait une tournée et je dois te dire que j'ai pu apprendre et expérimenter que tous les enfants de Dieu seront enseignés par Dieu. Et nous pouvons nous réjouir avec lui. Vous savez, si nous voulons croire ce qu'enseigne l'Église baptiste, nous pouvons y aller. Et si nous voulons croire ce que tous les autres enseignent, nous pouvons aussi y aller. Mais si nous voulons et pouvons croire que l'enseignement vient de Dieu, est venu de Dieu, alors nous devons nous asseoir sous l'écoute de cet enseignement divin et ne pas laisser nos pensées revenir en arrière, mais nous plonger dans ce que Dieu a à nous dire en ce moment, dans ce temps. Il ne sert à rien de dire « Je crois le message de la fin des temps et ce que Dieu a dit » et de ressortir ensuite sans cesse tous les vieux arguments qui n'ont absolument rien à voir avec le message. Non, il faut faire le ménage dans l'ancien avant de pouvoir recevoir du nouveau. Quand je tiens une chose dans les mains, par exemple des lunettes, et la pensée m'est venue alors que j'étais assis là-bas, je regarde avec des lunettes, je ne vois pas, je regarde sans lunettes, je vois encore plus mal. Mais si je veux en avoir de meilleures, je dois enlever celles qui ne me vont plus et m'en faire prescrire de nouvelles. Et alors, je verrai à nouveau bien. Il faut se débarrasser de l'un pour pouvoir accepter l'autre. On ne pourra pas tenir deux choses en même temps, entre les mains. Il se peut en effet que l'on ne connaît rien à la fin. Eh bien, nous sommes tellement reconnaissants pour ce que Dieu fait et affligés pour ce que l'ennemi fait. Mais mon beau-frère, lui, me console chaque fois que Dieu le guide à le faire. Et en ce moment, il n'y a personne qui me fortifie et m'édifie intérieurement comme lui. Et nous parlons alors en anglais, et vous savez que l'anglais est une langue bénie. Et quand il s'écrit alors dans le téléphone, Satan est un menteur et Dieu est vrai. Cela sonne à mon oreille comme une musique céleste. Et c'est vrai, aussi nous pouvons le dire de tout notre cœur. Dieu est véritable. Ce qu'il a dit est vrai. Et ce que dit Satan n'a jamais été vrai. Il lui est arrivé d'utiliser des demi-vérités, c'est vrai. Mais jamais avec des vérités entières. Et une demi-vérité, le diable la renverse et en fait un mensonge complet, complet. Et qu'a dit là aussi frère Branham? Il dit, le pire des mensonges est celui qui consiste à prendre 99% ou bien 99% de vérité et à y ajouter 1% de mensonge, puis à en faire une histoire. Cela devient alors une très mauvaise chose. Mais nous sommes ici aujourd'hui pour ne pas parler de ce que fait l'ennemi. Cela va de toute façon devenir encore pire. Nous devons tous nous y préparer. Moi en particulier. Mais Dieu ne se taira pas non plus. Il parlera et agira. Nous l'avons dit ici et nous le croyons aussi. Les paroles de Dieu et les actes de Dieu coïncident toujours. Et si nous considérons le cours de l'histoire, son peuple, Israël, a également dû emprunter des chemins difficiles. Les chemins les plus difficiles qu'un peuple ait empruntés, le peuple d'Israël les a empruntés. Et uniquement parce que Dieu avait un projet avec lui, le chemin le plus difficile était celui de tous les prophètes. Pas les sacrificateurs, pas les lévites. Avec eux, tout allait toujours bien. Mais les prophètes devaient emprunter des chemins difficiles. Le Seigneur ne dit pas où serait un sacrificateur que vous n'auriez pas persécuté ou un lévite que vous n'auriez pas lapidé. Il ne l'a pas. Il ne dit pas cela. Il dit, où serait un prophète que vous n'auriez pas persécuté et un envoyé de Dieu que vous n'auriez pas lapidé? Les sacrificateurs, personne ne les a lapidés. Ils étaient considérés par le peuple et l'affaire était donc réglée pour eux. Mais les prophètes, les hommes de Dieu qui ont parlé et agi par ordre du Seigneur, tout s'est écroulé sur eux à une telle échelle. Eh bien, nous pouvons lire dans les actes, dans les Écritures que le Seigneur devait dire « Depuis le sang juste d'Abel, tout le sang des saints a été versé, Luc 11, 51, jusqu'au sang de Zacharie, qui a même été assassiné devant l'autel des holocaustes, dans la maison de Dieu. De la part des incrédules? Non, gardons cela pour nous. Ne le disons à personne. Il s'est passé beaucoup de choses dans la maison de Dieu. Et cela de la part du peuple de Dieu qui est venu sous une fausse inspiration. Les hommes de Dieu qui sont sous la véritable inspiration de l'Esprit de Dieu contribueront toujours à l'édification de l'Église. Il n'y a pas de ministère que Dieu envoie dans l'Église pour la détruire. Cela n'existe pas. Dieu a placé dans l'Église des apôtres, des prophètes, des bergers, des enseignants et des évangélistes. Dans quelle raison? Pour préparer les saints, les rendre aptes au ministère dans l'Église. Dieu édifie partout où le Seigneur peut parler, où il peut agir, il sera fidèle à sa parole. Il a dit, je bâtirai mon église. Et celui qui l'utilise sera utilisé pour contribuer à bâtir son église. Ça c'est oui, amen. C'est la sainte parole de Dieu. Ce qui m'a frappé ici, c'est que le Seigneur ne parle pas de manière générale, mais de manière très ciblée. Il dit ici, dans Ésaïe 51, verset 3, « Car Isaïe 51, verset 3. Car le Seigneur a des consolations pour Sion, des consolations pour tous ces lieux de ruine. Pas pour ton peuple, ni pour le mien, ni pour aucun autre, mais pour ces lieux de ruine. Et il fera de son désert un paradis. Pas le désert de n'importe qui, une dénomination, une assemblée ou autre, mais il fera de son désert un paradis. Il n'est préoccupé par rien d'autre que par ce qui est contenu comme préoccupation principale dans l'ensemble du conseil de salut de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, c'était son peuple naturel de l'Alliance, et dans le Nouveau, c'est l'Église. Et de même que le peuple d'Israël est devenu un désert, mais il est toujours resté le peuple de Dieu. Dieu ne peut pas se renier lui-même. Il est appelé plus de 6000 fois le Dieu d'Israël. Comment peut-il le nier? Il a dit lui-même et il est et reste le Dieu d'Israël. Et ici, il dit qu'il aura de la consolation pour tous ces lieux de ruine. Il fera de son désert un paradis et de sa terre aride un jardin de Dieu. Il s'agit toujours de son œuvre, non pas de ce que les hommes font, mais de ce qu'il veut faire. Il est dit ensuite, au verset 4, « Écoutez-moi, mon peuple, pas un peuple, mais mon peuple. » Le verset 4, « Écoutez-moi, mon peuple, prête-moi l'oreille, assemblée de mon peuple. » Pas une assemblée. Dieu est un Dieu personnel. Nous sommes ses enfants, des fils et des filles, son peuple, son assemblée. Il nous parle. Il s'adresse à nous personnellement. Nos lieux de ruine sont ses lieux de ruine. Notre désert est son désert. Notre détresse est sa détresse. Nous sommes pourtant entre ses mains. Nous ne nous appartenons plus. Il nous a rachetés. Nous lui appartenons. Nous sommes sa propriété. Et c'est vrai ou non? Et c'est pourquoi il s'agit de lui. Il s'agit de ce qu'il veut faire. Verset 4, écoutez-moi, mon peuple. Et prêtez-moi l'oreille, vous. L'assemblée de mon peuple, tous ceux qui veulent être enseignés par Dieu doivent écouter sa voix et recevoir l'enseignement de sa bouche. Et comme je l'ai déjà dit parfois, il en est de la nourriture spirituelle comme de la nourriture terrestre. Qui parmi vous voudrait qu'on lui mâche ce que la personne doit manger? Qui? Personne ne le souhaite. Nous aurions la nausée. Chacun aimerait s'asseoir et manger ce qu'on lui a mis sur la table de manière fraîche. Si quelqu'un voulait me pré-mâcher ce que je dois manger, mais j'en serais malade. Je dirais, garde ça pour toi. Et il en va de même dans le domaine spirituel. Combien de gens ont la prétention de pré-mâcher et ensuite, ils le donnent aux gens? Pourquoi Dieu dit-il par le prophète Ésaïe au chapitre 28? Toutes les tables sont pleines de crachats et d'ordures. Qu'est-ce que c'était? Les gens ont donné ce qui leur semblait, non, ce qui leur semblait. Bon, Dieu... Ce qui leur semblait bon. Donc, de même. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que sa parole nous parvienne pure et sainte. Et ce n'est pas un frère qui enseignera l'autre, mais ils seront tous enseignés par Dieu. Et c'est seulement ainsi que nous parvenons à l'unité de la foi et de la connaissance en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si tu veux me rendre ce que tu as mangé. Cela ne marchera pas. Nous devons nous tenir chacun devant le Seigneur, nous présenter ensemble devant sa face et l'expérimenter personnellement comme il l'a dit. Isaïe 51, verset 4. Écoute, moi, mon peuple, pas un peuple, mais mon peuple, toi, mon peuple, et prête-moi l'oreille. Pas n'importe qui, mais à moi. Pas n'importe qui, mais à moi. Vous, mon peuple, vous, l'assemblée de mon peuple, car l'instruction viendra de moi. Le verset 4, la fin. Je suis convaincu, comme nous l'avons souvent entendu, que la parole a été donnée par les prophètes et ils ne l'ont pas mélangée à leur propre pensée pour ensuite la reproduire, la redonner, mais Dieu a parlé directement à travers eux. Et nous ne sommes intéressés par rien d'autre que par la parole qui est sortie fraîchement du trône et qui nous est parvenue. Nous n'avons besoin de personne pour nous l'interpréter encore, car dans l'enseignement divin, il y a déjà de la clarté pour nous. Dans la révélation de la parole, se trouve déjà ce dont nous avons besoin. Car la parole, le mot révélation signifie déjà que cela a été dévoilé et révélé une révélation. Nous n'avons besoin de personne d'autre pour cela, pour que quelqu'un vienne nous révéler la révélation. Non, la révélation est déjà une révélation. Personne n'a besoin d'aller voir quelqu'un pour lui dire « Oui, mais tu ne comprends pas cette révélation. » Peut-être que la personne concernée ne la comprend pas. Il faut tout de même laisser à Dieu le soin de décider à qui il ouvre la compréhension de l'Écriture. Quel cœur s'ouvrira et quel cœur s'endurcira. Cela aussi est entre les mains de Dieu. Le Seigneur a dit « N'endurcissez pas votre cœur quand je vous parle. » Et la même chose s'applique encore maintenant. Et il est dit ensuite, verset 4, « Et j'établirai mon droit pour éclairer les nations. » Non pas notre droit, mais son droit. Tout vient de lui et retourne et reconduit à lui. Verset 6, « Levez vos yeux vers le ciel. » Regardez vers la terre en bas, car les cieux se fondront comme une fumée et la terre se désagrégera comme un vêtement et ses habitants mourront comme des moucherons. Remarquez-vous comment la première et la deuxième venue du Seigneur sont déjà données ensemble dans les Saintes Écritures. Il y a déjà question de le ciel se fondra et les hommes mourront. Et comme il est dit ici, la terre se désagrégera comme un vêtement et ses habitants, verset 6, mourront comme des moucherons. Mais mon salut subsistera éternellement et ma justice ne sera pas détruite. La justice de qui? La sienne. Sa justice. Son salut, sa grâce, tout ce que nous avons nous a été accordé par lui. Et que celui qui veut se glorifie dans le Seigneur. Qu'il ne pense pas à lui-même, eh bien, je l'ai. C'est Dieu qui t'a cherché, c'est Dieu qui t'a trouvé et attiré à lui par pur amour. Il t'a appelé par ton nom pour que tu puisses exister, pour que tu sois à lui et exister. Verset 7, écoutez-moi, vous qui connaissez et aimez la justice. Il dit ici, au verset 6 encore, et que ma justice ne soit pas rendue caduque. Il s'agit ici de la justice de Dieu. Et le verset 7 s'applique à ceux qui ont été justifiés par Dieu en Jésus-Christ. C'est pour eux que s'attribue le verset 7. Écoutez-moi. Vous qui connaissez et aimez la justice, peuple dans le cœur du cœur duquel ma loi habite. Quelle merveilleuse parole nous sont adressées ici. Et souvenons-nous d'une chose, le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous parle aujourd'hui. Et je me demande parfois comment nous nous sentirions si nous voyons le Seigneur devant nous et si nous pouvions entendre ses paroles. Que se passerait-il dans notre cœur? Comment croirions-nous chaque mot, chaque parole? Que se passerait-il en nous si nous voyions vraiment notre Seigneur devant nous et entendions sa voix? Cela brûlerait. Ce n'est pas encore une expression. Nous serions submergés par la grâce de reconnaître qu'il nous parle. Et vous, bien-aimés, le but de la proclamation de la parole de Dieu est que l'Esprit de Dieu rende la parole si vivante et à ce moment-là si fraîche pour toi et pour moi, que nous l'entendions et la reconnaissions à nouveau, et sachant que Dieu est vivant pour nous parler. Tous les autres ne l'écouteront pas. Ils iront dans leur propre justice. Je relis le verset 7. Écoutez-moi, vous qui connaissez et aimez la justice, peuple, dans le cœur duquel ma loi habite. Ne craignez pas les railleries des hommes et ne vous effrayez pas de leurs insultes. Et alors, il sera dit oui ce qui arrivera. Que Dieu inscrive dans notre cœur que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, mais que nous lui appartenons parce qu'il nous a rachetés. Nous ne voulons pas seulement être une église, nous voulons être son église. Nous ne voulons pas seulement écouter, mais l'entendre, l'écouter lui, ne pas entendre d'interprétation, mais les paroles de révélation claires de notre Dieu. Et si Dieu donne la clarté, alors il n'y a pas besoin d'un homme qui pourrait donner encore plus de clarté que Dieu n'en a donné. Savez-vous ce qui s'accomplit alors? Cela n'a peut-être pas sa place ici, mais combien de fois l'entendons dire dans le langage populaire, toute la clarté a disparu. Lorsque les gens parlent entre eux, ils inversent les choses. Au lieu de dire toutes les ambiguïtés sont éliminées, on dit si joliment toutes les clartés sont éliminées. Non, là où les hommes parlent, les clarifications sont éliminées. Là où Dieu parle, les ambiguïtés sont clarifiées. Et c'est par la clarification divine, par la révélation, la clarté vient dans ton cœur et dans le mien. Nous pouvons dès à présent laisser tout le reste derrière nous. Regardez en avant dans la foi, car Dieu pose ses exigences à son peuple. Nous en sommes convaincus de tout cœur. Peut-être même que la parole que j'ai lue tout à l'heure dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, s'y prête ici. 2 Thessaloniciens 1, il est écrit à partir du verset 1 ou au verset 1, envoyons nos salutations à l'église des Thessaloniciens en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Verset 2, que la grâce et la paix soient avec vous. Les hommes sur qui la grâce de Dieu est venue, la paix de Dieu est aussi sur eux. paix sur la terre, dans les hommes, du bon plaisir de Dieu. Luc 2, 14. Certaines traductions disent simplement là, paix sur la terre. Et pour les hommes, un bon plaisir. Mais même dans cette traduction et dans le texte original, il est écrit, paix sur la terre dans les hommes, du bon plaisir de Dieu, dans les personnes qui ont trouvé la paix avec Dieu, les personnes qui ont reçu la grâce par Dieu. Et c'est à eux que Paul a écrit cette salutation. Que la grâce et la paix soient avec vous. Avec qui? Avec ceux qui ont reçu la grâce, qui ont été graciés par Dieu et qui ont trouvé la paix avec Dieu. C'est à eux que la parole de Dieu est adressée. Eux seuls la recevront. Tous les autres sont déjà là où d'autres veulent encore aller. S'il n'y avait que cela, nous devrions nous en réjouir. Le verset 3 dit, 2 Thessaloniciens 1, verset 3, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous, frères. Cela est juste parce que votre foi croît avec une extrême vigueur et que l'amour fraternel s'accroît chez chacun de vous tous. Pas seulement chez certains d'entre vous, mais chez chacun d'entre vous tous. Celui qui a reçu la grâce par Dieu, qui a trouvé la paix avec Dieu, qui appartient à son peuple, qui écoute sa voix et croit de tout son cœur, il faut que l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu et le sang agissent en lui jusqu'à ce que tout ce que Dieu s'est proposé de faire soit réalisé en lui. Il est dit ici, 2 Thessaloniciens 1, 3, parce que votre foi croît avec une extrême vigueur. Où la foi peut-elle croître? Plus la parole que Dieu nous adresse est forte, plus la foi qui peut être produite par l'Esprit sous la prédication dans ton cœur et dans le mien est puissante. Au jour de la Réformation, où seule une petite partie de la parole de Dieu était annoncée, la foi était appropriée. En tout temps, la foi était conforme à la parole prêchée, car la foi vient de la prédication. À aucune époque, les gens n'ont pu aller au-delà de cela. Mais nous ne pouvons pas rester en dessous de notre niveau. Mais nous devons aussi être mis à jour dans la foi, comme nous avons été mis à jour par Dieu, par la prédication. C'est ce que nous devons croire. Cela ne nous aidera pas si la parole entendue ne peut pas être réellement reliée à la foi. Et cela, déjà, sous la prédication. Il est dit plus loin, et que l'amour fraternel augmente chez chacun de vous tous. Regardons-nous maintenant et demandons-nous si cela est vrai. Ce qui est écrit ici, ça c'est vrai. Mais ce qui est écrit est-il vrai dans ta vie et dans la mienne? Est-ce que cela s'est réalisé en nous? Car il y a aussi un passage de la Bible qui s'accomplit aussi pour les gens, et plus précisément pour les croyants. Et l'amour se refroidira dans plusieurs. Matthieu 24, 12. Et ils se livreront les uns aux autres, et se mettront en jugement, et ainsi de suite. mèneront les autres devant la justice. Et si l'amour doit se refroidir, il faut bien qu'il ait existé une fois. S'il doit se refroidir, il doit avoir été chaud une fois. Alors le feu de Dieu doit avoir brûlé. Là où le feu n'a pas brûlé, il ne peut pas s'éteindre. Il y a donc deux groupes. Dans l'un des groupes, il est dit, ou de l'un d'eux, l'amour se refroidira en plusieurs. De l'autre groupe, que cet amour divin, qui se manifeste comme amour fraternel, augmente chez vous tous. À un moment donné, il y a une ligne de débarcation. À partir de ce moment, il diminue chez les uns et augmente chez les autres. Et le fossé s'élargit de plus en plus jusqu'à ce que les deux aient atteint leur point culminant. Et ne nous trompons pas, nous l'avons dit et répété, nous sommes maintenant dans un âge prophétique, dans le temps de la fin absolue. Et les choses qui ont été prédites pour la fin des temps doivent s'accomplir de toutes les manières possibles. Adressés à ceux qui ont reçu la grâce de Dieu, qui ont trouvé la paix avec Dieu, dont la foi croît vigoureusement chez eux, aussi l'amour fraternel augmente, à savoir chez chacun d'eux. De sorte, au verset 4, que nous-mêmes, dans les églises de Dieu, nous nous glorifions de vous à cause de votre constance et de votre fidélité à la fois dans toutes vos persécutions et les souffrances que vous avez à endurer. Ces choses sont en effet mises à l'épreuve. La théorie est une chose, mais ensuite vient l'épreuve. Et il est question ici de cette épreuve par laquelle nous devons tous passer, c'est-à-dire dans la fidélité à la foi et la persévérance dans toutes vos persécutions et souffrances que vous devez endurer. Les uns subissent, les autres regardent. Mais ceux qui ont été appelés par Dieu et qui ont été non seulement appelés, mais aussi appelés et choisis, élus, pas seulement appelés, mais élus, entendront, croiront et vivront la parole destinée aux élus. Et si cela implique des persécutions, des souffrances et quoi que ce soit d'autre, nous ne devons pas nous plaindre, mais être reconnaissants de pouvoir traverser tout cela. Vous savez, je ne suis qu'un être humain et je pourrais parfois chanter des lamentations au lieu de psaumes. Mais les Saintes Écritures nous disent clairement, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances pour tout. 1 Thessaloniciens 5:18. Oui, pour le bien, nous pouvons tous remercier, nous frotter les mains et tout va bien. Mais Dieu nous met à l'épreuve pour savoir ce qui est le plus précieux pour nous. Et je vous le dis dès maintenant, ce que Dieu nous a préparé est bien plus que ce que les hommes peuvent nous infliger. Et la tribulation passagère ne peut tout de même pas être juxtaposée ou comparée, même un seul instant, à la gloire incomparable de Dieu. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi est-ce que c'est pas possible? Parce que nous ne portons pas notre regard sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Il est dit ici, si merveilleusement, en verset 4, à cause de votre fermeté et de votre fidélité à la foi dans toutes vos persécutions et les souffrances que vous avez à endurer. Verset 5, il y a là une indication du juste jugement de Dieu, à savoir que vous serez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous avez justement à souffrir. Si je n'avais rien à voir avec le royaume de Dieu, si ma personne pouvait être détachée de la parole révélée pour ce temps, alors personne ne se soucierait de moi. Je pourrais alors y aller sans dommage. Si les prophètes avaient pu être détachés de la parole de Dieu, tout se serait bien passé pour eux. Mais alors, ils n'auraient plus été des prophètes. À quoi sert le bien-être? Et je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mieux vaut mourir avec Dieu que vivre sans lui. Et il en va de même pour les vérités divines de sa parole. Si l'on nous prive de ce que Dieu nous a donné, qui est inestimable et qui est fondamentalement tout pour nous, que nous reste-t-il pour nous réjouir? Rien du tout. Et c'est pourquoi la fidélité à la foi et la persévérance sont nécessaires dans toutes les persécutions, souffrances et épreuves qui s'abattent sur nous. Il est même dit, verset 5, il y a là une indication du juste jugement de Dieu, à savoir que vous serez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous avez justement à souffrir. Verset 6, car cela correspond certainement à la justice de Dieu, de rendre à vos oppresseurs la tribulation. Verset 7, mais pour vous donner à vous les affligés un rafraîchissement dans la communion avec nous, lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec les anges de sa puissance, verset 8, dans un feu ardent pour exercer sa vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Dieu et sur ceux qui n'ont pas écouté le message de salut de notre Seigneur Jésus. Le jour vient et nous savons qu'il y aura les deux, comme l'a dit le prophète Ésaïe. Le matin vient et aussi la nuit, Ésaïe 21:12. Viennent les récompenses et les rétributions, les deux viendront sur chacun ce que Dieu a prévu pour lui. Lorsque le Seigneur se manifestera du ciel dans un feu ardent avec ses saints anges, le juste jugement s'abattra sur tous ceux qui sont restés. Et ne nous trompons pas, les élus ne persécuteront jamais les élus. C'est impossible. Si Caïn et Abel avaient été issus de la même semence, tout aurait été en ordre. Non, ne mélangeons pas ces choses, mais voyons-les comme Dieu les voit et croyons-les de la même manière. Et voici un enseignement profond. Ici, plus loin, le verset 9 dit, ceux-là subiront en punition une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur, verset 9, et loin de la gloire de sa puissance. Verset 10, quand il viendra pour être glorifié parmi ses saints et pour être admiré par tous ceux qui auront cru. Les deux choses se produiront. Les uns recevront des représailles pour ne pas avoir cru. La foi n'est pas l'affaire de tous, c'est ce qui est écrit de Timothée, Thessaloniciens 3, verset 2. Mais ce qui compte, ce n'est pas seulement de croire quelque chose, mais de croire comme le dit l'Écriture, que nous croyons au Seigneur. La Bible dit dans l'Épître de Jacques, Jacques 2, 19, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tu fais bien de croire, même le diable croit et tremble. La foi seule, si elle est telle qu'on l'a soi-même, n'est utile à aucun homme. La foi que Dieu suscite dans nos cœurs par la prédication, de la parole, par l'esprit, voilà ce qui compte. Ce jour-là, le Seigneur sera admiré par tous les siens. L'heure viendra, mes bien-aimés, où nous nous tiendrons en admiration devant notre Seigneur. Nous perdrons toutes nos paroles lorsque nous verrons notre Seigneur et Sauveur de nos propres yeux. De nos propres yeux. Il est dit ici, verset 10, « Quand il viendra pour être glorifié parmi ses saints et pour être admiré. » Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Jean 17,5. Et la réponse est la suivante. Je t'ai glorifié et je te glorifierai encore. Quand tu reviendras pour être glorifié parmi ceux qui ont cru de tout leur cœur, il suscitera l'admiration. Nous ne saurons plus quoi dire tant nous serons émerveillés. Quel jour glorieux ce sera. Pour les autres, le jugement viendra lorsque le Seigneur se manifestera dans le feu, dans la colère. Mais il ne vient pas sur les siens avec un feu destructeur. Il ne vient pas avec la colère. Il a supporté la colère pour tous ceux qu'il a graciés et qui ont trouvé la paix avec Dieu. Mais ceux qui rejettent cet évangile et se fondent sur la justice personnelle ne pourront pas tenir et subsister devant Dieu. Ceux qui croient de tout leur cœur et qui s'appuient uniquement sur le Seigneur, c'est pour eux qu'il vient parmi tous ses saints. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés en vérité. Il a tout fait pour tous et nous en sommes reconnaissants. Quand il reviendra pour être glorifié parmi tous ses saints, je veux être là. Je veux être là quand il reviendra pour être glorifié parmi tous les siens. Il a porté l'opprobre, on a craché sur lui, on s'est moqué de lui, on l'a battu, on l'a martyrisé. Par dérision, on lui a mis une couronne d'épines. Et on lui a dit, mais tu es un roi, nous pouvons donc déjà te couronner. Qu'est-ce que notre Seigneur a dû endurer par amour pour toi et par amour pour moi? Au commencement, Dieu le Seigneur a dit, lorsque la malédiction a été donnée, le sol portera des épines et des chardons. C'est ce que le Seigneur a pris sur lui, ces épines. Ce sol cultivé qui a été placé sous la malédiction, là-bas, dans le jardin d'Éden, après la chute, cela devait montrer, c'est ici qu'il est venu, enlever la malédiction, ôter la malédiction. Il n'a pas été couronné de belles guirlandes, mais d'épines, de ronces, signe de la malédiction qui s'est abattue sur la terre. Notre Seigneur a enduré et pris sur lui beaucoup de choses pour aller à la croix dans son corps de chair et y opérer une rédemption valable éternellement pour tous ceux qui doivent être rachetés, qui acceptent la grâce de Dieu, le salut et la paix de Dieu. Mais ces personnes sont si précieuses pour le Seigneur et il leur est précieux. C'est auprès d'eux qu'il trouvera l'admiration. C'est auprès d'eux. En ce jour où il reviendra pour être glorifié parmi tous ses saints. L'achèvement de la glorification de Dieu aura lieu parmi tous ses saints. Et pas avant. Le Seigneur attend que ce temps, que cette heure ait sonné. Et alors il reviendra se révéler. Et comme il est dit ici, je le relis, pour que personne ne se méprenne et ne le comprenne mal. Au verset 10, lorsqu'il viendra pour être glorifié parmi ses saints, de ses anciens, 1 verset 10, et pour susciter l'admiration de tous ceux qui auront cru. Car c'est chez vous que notre témoignage a trouvé foi en ce jour-là. Avez-vous prêté attention à cette expression? Il ne dit pas chez vous quand nous avons prêché chez vous, notre témoignage a trouvé foi il y a 3 ou 4 ans. Non, il dit, car c'est chez vous que notre témoignage a trouvé foi en ce jour-là. Paul était sûr et certain à 100% que les croyants, comme frère Branham l'a dit dans un sermon, n'ont pas été sauvés d'un réveil à l'autre, mais qu'ils sont nés de nouveau pour une espérance vivante, et ce pour l'éternité. Et c'est ainsi qu'il a exprimé ici, car c'est chez vous que notre témoignage a trouvé foi en ce jour-là. Ici, il voulait simplement dire, en ce jour-là, parmi vous tous, qui avez entendu le témoignage et êtes venus à la foi, qui avez fait vos preuves dans toutes les souffrances et les épreuves, qui avez tenu bon jusqu'à la fin, vous serez le fruit de la prédication en ce jour-là. Et bien aimé, nous pouvons dire la même chose en ce temps. Ce n'est pas à cause de nous, mais comme un fruit précieux du glorieux évangile de Jésus-Christ, que quelques-uns sortiront de cette génération qui seront un témoignage en ce jour-là. Un résultat, le résultat de la prédication de la parole de Dieu de ce temps-là. Car nous ne croyons pas seulement pour quelques jours, nous croyons de tout notre cœur jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue, jusqu'à ce que le Seigneur revienne pour être glorifié et admiré parmi ses saints. Quel jour ce sera? Imaginez que nous soyons alors tous jeunes, transformés. Nous ne ressentirons plus de douleur, plus de souffrance, plus rien du tout. Tout sera passé, tout sera derrière nous, et nous pourrons contempler notre Seigneur dans un état glorieux. Qu'est-ce que cela va être? Si c'était aujourd'hui dans cet état, notre joie serait encore ternie. Est-ce vrai? Elle serait troublée. En ce jour-là, et je vous le promets, sur la base de la parole de Dieu, la joie ne pourra plus être troublée. Tout sera terminé et laissé derrière nous pour toujours. Nous serons amenés à sa rencontre et il sera glorifié parmi tous ses saints en ce jour-là et nous avec lui. Et il sera admiré par tous ceux qui seront présents ce jour-là. Notre prière devrait être ce soir. Seigneur fidèle, nous sommes ici, tu nous as parlé. Nous avons entendu ta parole, nous y croyons de tout notre cœur. Aide-nous à faire partie du groupe parmi lequel tu seras admiré, parmi lequel tu seras glorifié en ce jour-là. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Père Céleste, je te remercie de tout mon cœur. Avec ton peuple présent et absent pour l'œuvre de rédemption accomplie sur la croix à Golgotha. Seigneur mon Sauveur, tu as payé le prix, tu es ressuscité d'entre les morts le troisième jour, tu es monté au ciel avec ton propre sang, tu t'es assis sur le trône de la grâce pour intercéder en notre faveur à la droite de la majesté de Dieu. Je te remercie, je te remercie. Alléluia. Je te remercie en cette heure. Je te remercie parce que tu feras de ton désert un paradis et de la terre aride un jardin d'Éden. Tu aimes Sion et toutes ses ruines, oh Dieu. Alléluia. Tu es encore sur le trône. Tu prononces le dernier mot et tous les ennemis seront l'escabeau de tes pieds. Seigneur fidèle, je te remercie pour ta troupe rachetée par ton sang. Elle admirera, te contemplera en ce jour-là. Ô agneau de Dieu, glorieux sauveur, que ton nom soit loué. Que tu sois loué d'éternité en éternité. Agneau de Dieu, tu t'es laissé immoler. Je t'en remercie. Nous pouvons vivre, vivre éternellement. Alléluia, Seigneur. Je ne te demande pas seulement le baptême du Saint-Esprit, mais le baptême de l'Esprit et du feu. Que le feu divin consume tout en nous, tous. Et qu'ensuite, l'onction de ton esprit manifeste la vie nouvelle, la rende visible à la gloire de ton nom. Je te remercie, car c'est toi qui nous a appelés, qui nous a fait grâce et rachetés. C'est toi aussi qui baptises d'esprit et de feu. Tu ne baptises que d'esprit et de feu, pas autrement. Alléluia. Oh Dieu, je demande ce baptême pour moi et pour nous tous. Mon Dieu. Et cela comme au commencement. que des langues de feu apparaissent. Alléluia. Que la colonne de feu descende parmi ton peuple. Mon Dieu et mon Seigneur, glorifie-toi maintenant parmi ton peuple et puis aussi au jour où tu viendras. Alléluia. Parmi lesquels tu peux te glorifier dès maintenant, ils seront là quand cette glorification arrivera. Alléluia. Comme tu es fidèle. Seigneur, rends-nous tous libres de nous-mêmes afin que nous puissions venir à toi, ouvrir notre bouche et te parler. Alléluia. Gloire à toi pour l'éternité. Alléluia.